J'aimerais parler sur une nouvelle identité. Dans Genèse, chapitre 17, nous lisons au verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Je t'établirai, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque, si de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Amen. Nous avons tous une carte d'identité avec la mention de notre nationalité. Et parfois même, on a une double nationalité. Pour ma part, j'ai la nationalité française, mais par mon père, je suis aussi suisse. J'ai la double nationalité. Et j'ai regardé un petit peu dans l'Église, on représente plusieurs nationalités. Il y a des Gabonais, des Congolais, des Angolais, des Tchadiens, des Marocains, des Ghanéens, des Portugais, une Mexicaine, des Ivoiriens, des Tunisiens, des Cambodgiens, des Espagnols, des Réunionnais, des Pieds-Noirs, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Néo-Calédoniens et des Français. Gloire à Dieu. Voilà, l'Église de Toulouse-Ouest, c'est un melting pot. Il y a plusieurs nationalités qui se côtoient Et c'est une bénédiction. Peut-être que même j'en ai oublié, j'en ai mentionné une partie, mais c'est tellement riche le peuple de Dieu et tellement diversifié. Alors ce que j'aimerais voir, c'est que nous avons une première identité que nos parents nous ont donnée, que nous n'avons pas choisie, parce que peut-être vous êtes né en France ou peut-être vous êtes né dans un autre pays, mais vous avez maintenant une nationalité qui vous est collée. Mais il est surtout important de réaliser notre nationalité spirituelle, parce que nous sommes enfants de Dieu maintenant, et que nous avons un Père céleste qui nous aime, et que notre patrie, c'est le ciel. Nous sommes là pour un temps sur cette terre, mais en réalité, notre véritable nationalité, elle n'est ni française, ni suisse, ni gabonaise, congolaise, angolaise, etc. Notre vraie nationalité, elle est spirituelle, elle est en Christ. Et ce qui fait de nous des enfants de son royaume. Un ami me témoignait qu'un jour, il était dans une réunion, dans une école où il y avait du catéchisme, et la bonne sœur qui suivait ce groupe, donc c'était dans une école catholique, elle leur a fait, au lieu de faire le catéchisme, elle leur a demandé « Mais quel est votre signe du zodiaque ?» Ça n'a rien à voir. Alors les enfants ont répondu « Ben, moi, je suis du signe du Gémeaux, moi, je suis du signe du Poisson, moi, je suis du signe du Sagittaire, etc. » Et puis, elle arrive à mon ami, et la bonne sœur lui demande « Et toi, tu es de quel signe ?» Et mon ami lui répond « Ben, moi, je suis du signe de l'agneau. » Alors, elle regarde dans son des signes du zodiaque, et puis elle ne trouve pas, mais il n'y a pas l'agneau. L'agneau, ce n'est pas un signe du zodiaque. Et l'enfant lui répond, mais moi, je suis né de nouveau sous le signe de l'agneau. C'était bien trouvé comme formule. Mais pour montrer que notre véritable identité, elle est reliée à Christ. Et nous sommes nés de nouveau sous le signe de l'agneau de Dieu, c'est Christ. Alors, nous, on ne croit pas dans les signes du zodiaque. Mais on croit en Christ, notre Sauveur, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, un premier point, c'est une nouvelle révélation de Dieu, versets 1 et 2. Car Abraham avait déjà découvert Dieu comme El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. Le Dieu très haut, El Elyon, quand Abraham a rencontré Melchisédek, c'était quelques passages avant. Melchisédek est venu avec du pain et du vin et il lui a présenté El Elyon. Et en l'honneur de El Elyon, ils ont apporté de l'adoration. El Elyon, pour nous, c'est le Dieu très haut, c'est-à-dire qu'il est plus haut et plus puissant que toutes nos difficultés. Et nous devons considérer Dieu comme le Dieu très haut. Regardez, par exemple, quand vous êtes au pied d'une montagne et que vous la voyez d'en bas, vous allez la trouver insurmontable, beaucoup trop haute. Vous vous direz dans votre cœur, je n'arriverai jamais à la surmonter. Mais si vous connaissez El Elyon, le Dieu très haut, vous allez voir cette montagne à la mesure de Dieu, c'est-à-dire dans les hauteurs. Et quand vous êtes en avion et que vous passez sur une montagne, vous la regardez, elle paraît si petite. C'est la même montagne, mais quand vous êtes avec El Elyon, vous voyez la montagne dans le bon sens. Vue du ciel, nous regardons vers la terre. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ. Ça, c'est spirituel. On est bien assis sur nos chaises ici, mais en réalité, spirituellement, on est avec El Elyon, le Dieu très haut, assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, nous regardons en bas, l'ennemi est vaincu, nous regardons dans le bon sens, du côté de El Elyon, le Dieu très haut. Et maintenant, donc, le deuxième nom de Dieu que nous voyons, c'est El Shaddai. C'est écrit au verset 1, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » En hébreu, c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Ah oui, Tout-Puissant, parce qu'Abraham, à ce moment-là, il a 99 ans. C'est déjà un âge honorable. À l'âge de 75 ans, il a eu la promesse qu'il aurait un enfant. Il n'a toujours rien vu venir. Les années passent. Ça fait quand même 24 ans qu'il attend et il n'a toujours pas vu que Sarah a eu un enfant. Entre-temps, Ismaël est né, ça fait 13 ans, il a 13 ans à ce moment-là. Donc, vous voyez, les années ont montré que Ismaël est né par Agar, donc ça a fonctionné, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Mais Abraham s'est accroché à cet enfant qui est là maintenant. Au moins, il y a un enfant, ce n'est pas tout à fait comme Dieu avait dit, mais ce n'était pas le plan de Dieu à la base. Il ne fallait pas passer par Agar. Et Abraham doit comprendre maintenant que Dieu est tout-puissant, El Shaddai. C'est-à-dire qu'il peut faire naître un bébé à une femme de 90 ans. Ça, il a du mal à le croire. Et si vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose avec une jeune fille qui s'appelle Marie, qui est fiancée seulement à Joseph, donc elle n'est pas encore mariée. Et l'ange, lorsqu'il vient se révéler à elle et qu'elle lui dit qu'elle enfantera un fils par l'action du Saint-Esprit, elle ne comprend pas comment ça peut se faire, mais c'est par l'action du Saint-Esprit, il y aura un miracle. Et dans Luc chapitre 1, verset 37, l'ange lui dit « car rien n'est impossible à Dieu ». Qu'est-ce que l'ange est en train de communiquer à Marie ? Il existe El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et ce soir, nous allons prier qui ? El Shaddai. Nous allons dire « Seigneur, tu es tout-puissant ». Est-ce qu'on pourra dire ce soir « car rien n'est impossible à Dieu » dans nos prières, par la foi. El Shaddai est là. Il est El Elyon, le Dieu très haut. Regardons les choses dans le bon sens. Ne regardons pas nos difficultés d'en bas vers le haut, mais d'en haut vers le bas. Et prions El Shaddai. Il est tout puissant pour faire un miracle, changer la situation. Jésus, d'ailleurs, quand il est venu sur terre, c'est vraiment l'incarnation de El Shaddai, si vous regardez son ministère, par exemple. Jésus, il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, « Aucun homme n'a pu prononcer une parole pareille, parce qu'on l'aurait pris pour un fou. » Même un dictateur qui dirait ça, on dirait « il est fou ». Mais Jésus dit dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné, moi, Jésus, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. » Mais qui peut prononcer une parole comme ça? Il n'y a qu'une personne qui peut prononcer une parole comme ça, il n'y a que Dieu qui peut dire. Qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? El Shaddai. El Shaddai, c'est Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus s'arroge le droit de dire, « Moi, voyez, j'ai tout pouvoir, je suis El Shaddai, dans le ciel, les anges me sont soumis, et sur la terre, j'ai tout pouvoir. » Tout pouvoir, ben, vous voyez par exemple, quand Jésus calme la tempête, il a tout pouvoir sur la nature. Quand Jésus marche sur l'eau, il est El Shaddai. Il est tout puissant sur la nature. Il peut dire au vent, tais-toi, à la tempête, silence. Il a tout pouvoir. Sur la maladie, il touche le lépreux. Ce n'est pas le lépreux qui rend malade Jésus. Parce que vous savez que la lèpre, c'est contagieux. Il ne faut pas toucher un lépreux, ça vous contamine. Mais ce n'est pas la lèpre qui va contaminer Jésus. C'est Jésus qui va, El Shaddai, par la puissance de Dieu, contracter la guérison aux malades. Tout puissant pour guérir, tout puissant pour faire des miracles, tout puissant sur les démons. Quand Jésus chasse les démons, il fuit parce que c'est El Shaddai, Dieu tout puissant. Il est tout puissant sur la mort. Quand Lazare est dans le tombeau, il dit « Lazare sort », il est tout puissant pour ressusciter un mort. Donc voyez, sa vie, elle est marquée par la toute-puissance de Dieu. On peut dire que Jésus, c'est El Shaddai sur terre. Et c'est pour ça qu'il peut dire « Oui, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Alors, je reviens à Abraham, Dieu ne lui demande pas de tout comprendre. Qui sommes-nous pour comprendre les plans de Dieu, les mystères de Dieu, quand Dieu nous fait des promesses? Nous ne comprenons pas. Il ne nous demande pas de comprendre toutes choses, mais il nous demande une seule chose, c'est de croire que Dieu est El Shaddai. De croire et de continuer à croire, alors que nous ne voyons pas avec nos yeux la promesse se réaliser, de croire que Dieu est toujours El Shaddai. C'est ça que Dieu est en train de communiquer à Abraham. Ça fait 24 ans, la promesse t'a été donnée, mais continue à croire que je suis El Shaddai. Il fallait ranimer tout cela dans son cœur, il fallait le repasser plusieurs fois dans son cœur, parce qu'avec le temps, c'est un petit peu comme nous, vous voyez, avec le temps, avec les années, on a tendance à négliger, à faire des compromis, à reculer. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, toujours au verset 1, d'abord la révélation de El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, « Marche devant ma face et sois intègre ». Ça veut dire « continue à marcher par la foi, ne fais pas de compromis avec les promesses de Dieu, ne retourne pas en arrière, il y a une promesse, une bénédiction qui est sur ta vie, je suis El Shaddai ». Si à ce moment-là, frères et sœurs, si nous regardons par la vue, si nous marchons par la vue, nous perdons. Et ce sera la voix d'Ismaël. La voix d'Ismaël, c'est la marche par la vue. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham ? Non, non, je suis El Shaddai, continue à marcher par la foi, reste intègre dans les promesses que tu as reçues, dans la parole que tu as reçue dans ton cœur, ne fais pas de compromis. Ismaël, c'est la voie du compromis. Il y a une promesse qui arrive, El Shaddai est là. Deuxième point, c'est maintenant la nouvelle identité d'Abraham, puisque Dieu va changer son nom. Abraham qui signifie « père élevé », donc c'est les versets 3 à 8, « père élevé » va devenir Abraham avec un H qui signifie « père d'une multitude ». Le nom donc va signifier maintenant « voilà ce que je fais de toi, je te rends père d'une multitude ». Abraham, il est toujours avec son épouse, il n'a pas eu d'enfant, il a eu l'enfant par Agar, Ismaël, mais c'est tout. Et pourtant, Dieu lui dit « je te rends père d'une multitude ». Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ? C'est que Dieu déclare des choses sur nos vies. Dieu déclare sur nos vies des promesses. Il a un plan pour nous. Il va le déclarer et cette déclaration est vraie, elle est pure. Alors, avec ses yeux, Abraham ne le voit pas, mais il reçoit la promesse. C'est comme nous, quand Dieu nous a sauvés, il nous a tirés du péché, il a dit « maintenant, je fais de toi un enfant de Dieu ». C'est sur ta vie, c'est une déclaration de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es fils du roi des rois, tu es fille, tu es prince, princesse. Tu es béni dans les lieux célestes, de toute bénédiction spirituelle. Tu es membre de l'Église de Christ. Tu es plus que vainqueur dans la maison de Dieu. Tu es justifié, tu es saint, tu es mis à part. Et toutes ces déclarations, en fait, elles viennent de Dieu sur nos vies, comme il l'a fait pour Abraham. Abraham, tu es père d'une multitude. C'est une déclaration. Et bien sûr, nos vies, il y a des déclarations que nous devons saisir par la foi. Et maintenant, il va falloir qu'Abraham devienne ce que Dieu a dit qu'il allait devenir. Tu es pour Dieu père d'une multitude, ça veut dire qu'une descendance va venir qui va aboutir à un peuple nombreux. Israël arrive derrière. Mais vous avez plusieurs noms changés, je pense à Jacob. Jacob, ça signifie le trompeur. Et à un moment donné, Dieu va lui dire, tu n'es plus Jacob. Changement d'identité, tu t'appelleras maintenant Israël, celui qui a combattu avec Dieu. Tu as combattu avec Dieu et tu as été vainqueur. Jacob, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de la persévérance dans la prière et dans la foi. Il a combattu toute une nuit avec l'ange. Mais ça, ça nous parle du combat dans la prière. Je ne te lâcherai point, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. C'est la parole de Jacob. Donc, c'était un combattant. Et comme on est réunis pour prier, nous sommes aussi dans un combat spirituel et on est des combattants. Et Dieu nous donne un nouveau nom. Tu n'es plus Jacob. Jacob, c'est ta nature charnelle. Tu es le trompeur. C'est ta nature, on va dire, ton identité de base. Mais maintenant, tu es ton identité en Christ. C'est maintenant Israël, celui qui lutte avec Dieu, celui qui combat, celui qui obtient la bénédiction, c'est-à-dire qui va persévérer pour obtenir. Et il va l'obtenir. Et si vous vous rappelez cette rencontre entre Jacob et Dieu, il y a eu un petit détail. C'est que l'ange l'a frappé à la hanche et à partir de ce jour, Jacob, qui marchait droit, s'est mis à boiter. Jacob est devenu boiteux. C'est intéressant parce que tant que Jacob marchait droit, sans boiter, en fait, dans sa vie, il était bancal. Spirituellement, il était bancal parce qu'il était le trompeur. Et quand Dieu l'a touché dans sa chair, l'a diminué, l'a limité dans ses mouvements, l'a humilié, il va boiter maintenant. Alors, c'est pénible, il boite, il a du mal à marcher. Mais spirituellement, il y a une œuvre de redressement. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il a marché droit dans les choses de Dieu, alors qu'avant, il était bancal. Vous voyez comment Dieu opère ? Il opère des fois dans le naturel, dans la chair, pour agir sur l'esprit. C'est ce qui s'est passé pour Jacob. C'est ce qui s'est passé pour Paul. Je t'ai mis une écharpe dans la chair, mais c'était pour le garder dans l'humilité. Il y a une action de la chair qui va déboucher sur une bénédiction spirituelle. Mais quand vous regardez quelqu'un qui boite, vous allez dire, c'est pas de chance. Mais pour Jacob, c'est une bénédiction. Vous voyez comment on doit renverser les choses. L'apôtre Paul, vous direz, c'est pas de chance, il a une écharde, il est limité. Mais pour l'apôtre Paul, il le considérait comme une grâce, parce que Dieu le maintenait dans cet état de service. Donc il faut voir les choses à l'endroit. Quand vous êtes touché dans la chair, il y a une raison spirituelle qu'il faut cerner, qu'il faut saisir, et que le Seigneur a révélée à son serviteur Paul. Simon dans le Nouveau Testament, c'était son nom d'origine, il était pêcheur de poissons, mais Dieu l'a appelé, tu seras plus Simon, tu seras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et Pierre est devenu un des fondements de l'Église. Il a transformé Pierre pour faire de lui un rocher. Voilà comment Dieu agit. Et puis, vous avez ce magnifique passage, versets 4 et 5, où vous avez les temps de Dieu qui se conjuguent, qui se heurtent. Les temps de Dieu sont à la fois futur, présent, passé. Verset 4, vous l'avez au futur. « Tu deviendras père d'une multitude de nations. » C'est donc une promesse à l'avenir. Mais verset 5, « Je te rends père. » C'est du présent. Donc Dieu est en train de rassembler en fait le futur et le présent. Il est en train de le conjuguer. C'est le langage de Dieu. Et si vous regardez dans le Nouveau Testament, Romains 4, 17, au même instant, dans le même contexte, Dieu dit « Je t'ai établi père d'une multitude de nations ». Ce n'est pas encore fait, mais c'est déjà fait. Il y a comme un temps qui se conjugue, en fait, au temps de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose sur votre vie, il peut le dire au présent, il peut le dire au passé, il peut le dire au futur. Mais ça signifie la même chose. Parce que Dieu, pour Dieu, Abraham était déjà le père d'une grande multitude de nations. Il n'avait pas encore eu Isaac, mais c'était déjà acquis qu'il va l'être. Et donc, c'était déjà inscrit. Il n'y avait pas à douter. Et c'est pourquoi les promesses de Dieu futures, on peut même les déclarer au passé. Ça vous surprend peut-être. Mais c'est marqué dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui l'enseigne dans Marc chapitre 11, verset 24. Et pour bien vérifier ça, vous pourrez voir dans la version la seconde révisée, c'est-à-dire la Bible à la colombe. Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez. » Dans notre version, c'est « demanderez au futur ». En réalité, dans le grec, c'est « demander au présent ».« Tout ce que vous demandez au présent, en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Ça, c'est du passé. « Et vous le verrez s'accomplir. » Ça, c'est du futur. Et vous avez les trois temps de Dieu réunis dans la parole de Christ, comme pour Abraham. « Abraham, je t'ai établi, je t'établirai, je t'établis. » C'est la même chose. Et Jésus nous dit, vous priez pour quelque chose. Vous ne l'avez pas encore. Mais il dit, vous l'avez, croyez par la foi, vous l'avez déjà reçu. C'est donc du passé. Ça veut dire que pour Christ, si vous croyez, c'est déjà acquis. Sauf que vous ne l'avez pas encore. Il vous sera accordé. C'est-à-dire que Dieu rassemble les trois temps dans un seul temps. Passé, présent, futur, se conjugue. En Dieu, il n'y a pas de difficulté. Pour nous, c'est un paradoxe. Pour nous, pauvres humains, ça dépasse notre cerveau. Mais pour Dieu, c'est le temps de l'accomplissement. C'est le temps de la foi. En fait, toute la différence, c'est de pouvoir se maintenir dans la foi alors que vous ne voyez pas avec vos yeux le moindre indice de l'exaucement de la prière. Parce que il y a un mot, il y a une seule chose que Dieu nous demande, c'est le mot « croyez ». Croyez que vous l'avez reçu, la foi. La foi se trouve au centre des trois temps de Dieu. Autour, vous avez le passé, le présent, le futur, mais au centre, vous avez la foi. C'est-à-dire, si vous quittez le terrain de la foi, vous ne pouvez pas vivre l'exaucement. Croyez, c'est le centre. Il faut croire, pas simplement prier, mais priez avec foi. Vous avez un enseignement de Jésus qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Mais il insiste sur la foi associée à la prière. Vous enlevez la foi, mais vous priez, vous priez, vous priez. Ben vous êtes à côté du plan de Dieu. Donc, associons la foi à la prière. Pour le nom, je lis Apocalypse chapitre 2, verset 17, pour vous montrer que nous avons tous reçu un nom nouveau. Abraham, il s'appelle Abraham, et dans Apocalypse 2, 17, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il y a un nom nouveau. C'est ce que nous sommes en Christ. Il nous est donné. C'est notre nouvelle identité, et nous la recevons comme un cadeau, mais à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, il reçoit ce nom nouveau. Ben, les changements de nom, j'ai parlé de Pierre, ce ne sont que des exemples. On pourrait parler de Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel voit Gédéon qui est faible, alors lui, son identité, c'est peureux, faible, craintif. Et Dieu lui donne une nouvelle identité, tu es un vaillant héros. Il déclare sur sa vie des promesses. Tu vaincras Madian, tu seras un conducteur militaire. Et lui, il n'est à l'époque, dans son présent, que faible et craintif. Donc Dieu déclare. Sur David, c'est pareil. David, il est simple berger, méprisé par sa famille, ça c'est son contexte. Et Samuel, loin d'il, il lui dit, c'est toi qui seras roi. C'est toi qui va remplacer Saül. C'est toi qui aura de grandes responsabilités. Il est loin, bien que simple berger. Donc, il y avait une nouvelle direction pour sa vie. Au verset 9 à 14, c'est le troisième point, c'est le signe de l'Alliance. Alors, le signe de l'Alliance, c'est la circoncision. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et les Juifs, d'ailleurs, le pratiquent toujours comme signe de consécration à Dieu. Pour nous, c'est l'Ancienne Alliance. Il faut savoir que c'est le deuxième signe. Le premier signe, c'était l'arc-en-ciel. Dieu avait donné un signe d'alliance avec son peuple, qui était l'arc-en-ciel. Ce signe n'impliquait pas de responsabilité des hommes, c'était Dieu qui le donnait. Mais là, maintenant, avec la circoncision, ce signe n'aura de valeur que si l'homme y adhère, si l'homme obéit. Le signe rappelle trois choses. Le signe faisait appel, premièrement, à la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas juste un signe de Dieu. Il faut que ça soit marqué dans la chair de l'homme. Deuxièmement, la foi de celui qui recevait le signe devait être impliquée. Dans Romains chapitre 4, verset 11. « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. » C'est donc Abraham, quand il était circoncis, « afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que justice leur soit imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. » Il ne s'agit pas seulement d'être circoncis dans la chair, mais il fallait que les Juifs eux-mêmes marchent dans la foi. Et c'était le signe dans la chair n'était pas suffisant tout seul. Il fallait y adhérer, il fallait mettre sa foi en Dieu. C'était déjà dans l'Ancienne Alliance. Et puis enfin, l'obéissance aux conditions divines. Voilà tout ce que représentait la circoncision. Alors la circoncision, on a dit, c'est l'Ancienne Alliance. Maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Quel est le signe dans la Nouvelle Alliance? Le signe de consécration, maintenant, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, pour nous, c'est la responsabilité de chacun. Chacun est placé face à ce choix. C'est la foi d'abord qui précédera le baptême et qui permet un engagement. Et puis, c'est l'obéissance aux conditions divines. On retrouve les trois caractéristiques de la circoncision qui était valable dans l'Ancienne Alliance, mais qui est maintenant appliquée au baptême, qui est maintenant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais il faut prendre nos responsabilités, mettre notre foi en Dieu et obéir aux conditions de la parole. Et je termine un dernier point. C'est la nouvelle identité de Sarah. Quatrième point, c'est les versets 15 à 22. Vous avez remarqué qu'il y a eu changement de nom de Abraham en Abraham. Maintenant, c'est le changement de nom de Sarai en Sarah. Sarai qui signifie noble distingué. Il va s'appeler Sarah qui signifie princesse. Ici, Dieu confirme quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, mais ma promesse tient toujours. D'abord, révélation de son nom, je suis quand même le Dieu Tout-Puissant. Tu es père d'une multitude, ma promesse tient toujours, j'avais dit que tu aurais une descendance par Sarah, elle arrive. Dieu confirme. Sarah a 90 ans, le plan de Dieu s'accomplit. C'est comme si Abraham expliquait à Dieu qu'il y a un problème. C'est que Sarah, elle a quand même 90 ans. Il est en train d'expliquer à Dieu, en fait, les choses. Il dit, Dieu, mais tu m'as fait une promesse, mais voilà. On voit que ce n'est pas possible. Sarah, elle a 90 ans. Est-ce qu'il naîtrait un fils à une femme de 90 ans? Voilà. Donc, il est dans la logique humaine. Mais est-ce que vous pensez que pour Dieu, c'est un problème, nos problèmes? Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Pour nous, c'est un problème. Et ce soir, on est peut-être venu avec un énorme problème, mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Nos énormes problèmes ne sont pas des problèmes pour Dieu. Ce sont des problèmes uniquement pour nous qui sommes humains, qui nous débattons dans les problématiques terrestres. Mais Dieu, il savait que ce n'était pas un problème et il va faire le miracle avec une femme de 90 ans. Ce que nous considérons des problèmes, même ce soir, ne sont pas des problèmes pour Dieu. Comprenons-le par la foi, saisissons-le. Dieu ne nous demande pas de comprendre, il ne dit pas à Abraham ce qu'il doit comprendre, il lui dit simplement de croire, toujours la foi. Abraham a du mal à croire dans la promesse. Pourquoi? Parce qu'il est, accroché au passé. Vous voyez ce Ismaël? Il leur parle encore. Ismaël, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive, ça veut dire, c'est pas la peine, on n'y arrivera pas avec l'enfant de Sarah, mais au moins qu'Ismaël vive, on a réussi avec Ismaël, gardons-le. Et ça, c'est quoi? C'est se raccrocher au passé. Se raccrocher à quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Se raccrocher à des valeurs terrestres. Se raccrocher à des choses de ce monde. Non, non, il faut laisser. Ismaël, il a maintenant une promesse sur sa vie, c'est pas la direction de Dieu pour le peuple, ça sera Isaac. Et là, maintenant, on va aller dans la précision. Premièrement, le nom du fils est donné, c'est la première fois que le nom de Isaac est mentionné. Donc, il lui dit, tu vas avoir un fils de Sarah et tu vas l'appeler Isaac. Son nom est mentionné maintenant, qui signifie « il rit ». D'ailleurs, c'est parce qu'Abraham a ri à ce moment-là. Vous avez un jeu de mots entre « Abraham rit » et « il s'appellera Isaac ». Isaac, ça veut dire « il rit ». Et deuxième précision, la promesse va s'accomplir dans un an. Le nom, Isaac, et dans un an, la naissance. À partir de maintenant, on peut dire que là, ça faisait quand même 24 ans, les choses vont s'accélérer. Et il y a un temps de Dieu où Dieu dit maintenant, c'est le moment de l'exaucement. Et ça, ça va réjouir le cœur d'Abraham qui ressort de la présence de Dieu avec cette promesse, le nom, parole de Dieu, c'est Isaac, et le timing dans un an. Voilà les changements d'identité qui ont jalonné la vie à la fois d'Abraham et de Sarah. Et je crois que pour nous, c'est pareil. Le monde nous a donné une identité, mais Christ vous a donné une nouvelle identité. Cette identité, nous devons la cultiver. Pour le monde, vous êtes peut-être un échec. Vous avez complètement raté dans la vie. Vous avez raté dans la société, vous avez raté au niveau financier, vous avez raté au niveau du travail, vous avez raté dans votre vie professionnelle, tout. Mais pour Dieu, vous n'êtes pas un numéro. Pour Dieu, vous n'êtes pas un raté. Pour Dieu, vous avez un nom nouveau, un nom qu'il a pour vous. Il a un projet pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail, pour vos études, tout. Dieu nous accueille tel que nous sommes. Comme Pierre, Simon qui l'a accueilli au début, mais il nous transforme pour faire de nous des ouvriers avec lui, des instruments dans sa maison. Et ce soir, c'est notre espérance. C'est que Dieu transforme toutes choses et qu'il nous donne une nouvelle identité. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci parce que tu changes toutes choses. Les combats que nous vivons sont difficiles. Nous sommes peut-être acculés, rejetés, mis de côté dans une situation sans issue. Mais ce soir, nous voulons nous rappeler à qui nous nous adressons, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui dis un mot et qui transforme les choses, Seigneur, viens au secours de ton peuple qui crie à toi. Seigneur, tu es toujours tout-puissant, quelles que soient les circonstances. Ce soir, nous ne voulons pas marcher par la vue, mais apprendre à développer cette vision de foi. Merci pour les noms nouveaux que tu as pour chacun, pour les nouvelles destinées, parce que tu ne nous vois pas comme le monde, mais tu nous vois, Seigneur, selon tes critères, selon ta parole et selon ce que tu veux pour chacune de nos vies. Merci de nous conduire plus près de ton cœur ce soir encore, et nous voulons être à l'écoute de ton esprit. Et dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.